À propos de l'Algérie, signalons que le groupe Le COSDAL, qui depuis quelques années informe sur la situation en Algérie, organise une soirée couscous film musique. C'est ce samedi, c'est le samedi qui vient, et ça se passe au centre de loisirs de Carouge. Toujours sur le thème d'ailleurs des femmes dans le monde arabe, la librairie Al-Diwan au Paki expose une centaine de photos de femmes des pays arabes. En bas, c'est donc énormément de visages de femmes les plus divers, des politiciennes, des avocates, des artisanes, des paysannes qui vivent dans des pays arabes, Algérie, Maroc, Tunisie, Oman, Qatar, Liban, Jordanie, Irak, Égypte et j'en passe, qui ont accepté donc de faire laisser fixer leur image sur la pellicule des photographes. Chaque portrait est accompagné d'un témoignage qui dit la force de la conviction de ces femmes. Chaque texte, chaque photo révèle une lutte, une réussite ou un échec, démontrant la multiplicité de la condition d'existence des femmes dans les pays arabes. Pour Mohamed Ben Enda, directeur de la librairie Al-Diwan, qui avec Sylvain Lehmann du Centre Europe Tiers-Monde ont monté cette exposition réalisée par l'Institut du Monde Arabe à Paris, c'est une manière de montrer, de casser les stéréotypes dans l'imaginaire européen sur la femme arabe voilée, soumise, qui est d'après eux toujours réducteur. Peu satisfait du traitement politique du monde arabe dans notre société, nous avons choisi l'approche culturelle pour rapprocher les communautés arabes et genevoises, trop fermées l'une à l'autre, explique M. Lehmann. Élargissant le débat, il ajoute « Nous avons en commun désormais une situation économique faible et une mondialisation discriminatoire entraînant racisme, xénophobie et exclusion ». Cette exposition est ouverte jusqu'au 21 novembre. Elle se tient donc à la librairie Al-Diwan, 4 bis rue des Paquis. Mais Marjolaine vous en parlera plus longuement. J'aimerais également signaler qu'un témoignage débat avec Louisa Hanoun est organisé toujours par la librairie Al-Diwan le vendredi 8 novembre à 18h à la rue du Vieux Billard, au 25 rue du Vieux Billard. Louisa Hanoun est une figure emblématique du combat pour la paix et la démocratie dans son pays. Elle est dirigeante du Parti des travailleurs algériens. Elle est auteure de plusieurs ouvrages. Elle présentera son dernier ouvrage, Une autre voix pour l'Algérie. Ah, excusez-moi, je me suis trompée sur l'adresse. La librairie se trouve au 40 bis rue des Paquis. Donc, c'est la librairie Al-Diwan. Et la séance avec Louisa Hanoun se tient donc 25 rue du Vieux Billard. Voilà. En Grande-Bretagne, les femmes prêtres veulent aussi accéder à l'ordination épiscopale. Elles veulent devenir évêques. Vraiment, on ne les arrêtera jamais. Une partie des femmes prêtres de l'église anglicane demande maintenant que l'ordination épiscopale leur soit également accessible. L'archevêque de Canterbury s'est pour sa part déclaré sceptique à propos d'initiatives lancées par une centaine de femmes prêtres. Selon le Sunday Times, le chef de l'église anglicane britannique est d'avis que l'ordination épiscopale des femmes pourrait approfondir le fossé qui a déjà conduit des milliers d'anglicans à se tourner vers l'église catholique romaine. À l'heure actuelle en Angleterre, une paroisse sur 6 est dirigée par une femme. Le pays compte près de 2000 femmes prêtres depuis les premières ordinations il y a 2 ans. Entre-temps, seuls quelques 200 prêtres masculins ont quitté leur église en signe de protestation contre l'ordination des femmes. Ils sont devenus catholiques, prêtres catholiques, souvent d'ailleurs mariés avec enfants. En Europe, le chômage des moins de 25 ans frappe surtout les femmes. Ainsi, en Espagne, 48% de femmes sont au chômage contre 35%. En Belgique, 27% contre 23%. Au Portugal, 19% et 18%. En fait, cette division, cette séparation se retrouve dans tous les pays d'Europe où massivement les jeunes femmes sont beaucoup plus au chômage que les jeunes hommes. Ah. En Suisse, le débat sur la libéralisation de l'avortement est enfin relancé. Un projet de loi autorisant l'interruption de grossesse dans un délai de 14 semaines vient d'être rédigé par une commission du Conseil national. L'uniformisation des pratiques cantonales soulève de nouvelles passions. On pense qu'un référendum sera lancé. En tout cas, il y a un changement de mentalité qui se dessine depuis les années 90. C'est ce qui réjouit la conseillère nationale Barbara Ehring, car c'est elle, donc, la socialiste zurichoise, qui en 93 a lancé une initiative parlementaire, qui porte d'ailleurs son nom, qui débouche donc sur ce projet de loi approuvé il y a quelques jours à 3-1 par la Commission des affaires juridiques du Conseil national. C'est une étape importante vers la libéralisation de l'avortement applicable sur l'ensemble du territoire suisse. La Suisse reste en effet l'un des pays les plus restrictifs sur la question, avec l'Irlande et le Portugal. Même la Pologne, qui était assez restrictive, est revenue sur ses pas. Ce qui ne veut pas dire que le libre choix pour la femme d'avorter dure en 14 semaines est encore là. Il faudra encore attendre très très longtemps, puisqu'avant il y aura une procédure de consultation et puis des débats parlementaires, probablement un verdict populaire suite au référendum que ne manquera pas de lancer le Parti démocrate chrétien au nom du respect de la vie, du fœtus et de la famille. En conclusion, ce n'est pas avant l'an 2000 qu'on pourra avorter tranquillement en Suisse. Les dispositions du code pénal datent de 1942. Elles ne correspondent donc pas plus du tout aux pratiques libérales et tolérantes que ce qui se pratique dans la plupart des cantons, puisque c'est la loi interdit ou plutôt autorise l'avortement que si la santé de la mère est mise en danger par la naissance. La loi qui rend l'interruption de grossesse punissable dans tous les autres cas est la même pour tous les cantons, mais elle est interprétée différemment, ce qui pousse d'ailleurs à un certain tourisme avortif entre les différents cantons en Suisse. On est sûr que les démocrates chrétiens lanceront un référendum. Ils se lanceront donc dans l'opposition avec l'appui de la conseillère nationale libérale Suzette Sandoz, qui n'en rate pas une. L'enfant, dit-elle, est une personne. Dès sa conception, l'État ne saurait autoriser le meurtre. L'enfant en gestation serait-il propriété de l'État justicier? Non, mais il n'appartient pas à l'État, mais pas non plus à la femme, tranche la vaudoise. Est-ce qu'il appartiendrait à l'homme? Toujours en Suisse, nouvel obstacle pour l'assurance maternité, les assureurs privés n'y sont pas favorables. Face aux prévisions démographiques qui ont été publiées par l'Office fédéral de la statistique, l'Association suisse d'assurance, qui regroupe les assureurs privés, a repris la balle au bond pour s'opposer à toute extension des assurances sociales. Aucun nouveau projet tel que l'assurance maternité ou le règlement des allocations familiales ne doit être réalisé. Du moins pas avant que l'on détermine clairement comment on financera à long terme le système social existant. Il faudra avoir le courage de dire non, s'exclame le président de la direction et d'une assurance et membre du comité de l'Association des assureurs privés. Un nouvel obstacle se dresse ainsi sur le parcours de l'assurance maternité, qui en avait déjà pas mal, dont le financement est encore en discussion et à laquelle les milieux patronaux sont fermement opposés. Pourtant, selon une étude, seul un repos et une véritable possibilité d'accoucher tranquillement pourraient garantir une prévention des naissances prématurées. Car il y a énormément de naissances prématurées en Suisse et à Genève plus particulièrement, où une étude a été menée. 2 fois plus d'accouchements prématurés à Genève qu'en Suède ou en France. 8% contre 4% et 5% en France. La Suisse et Genève en particulier, un des taux les plus hauts d'Europe de naissances prématurées. Cette analyse a été commandée par le service de médecine cantonal et donc elle amène de l'eau à ceux qui voudraient étendre la législation suisse en matière de protection de la maternité. C'est le docteur Elisabeth Cohn-Péréard qui a mené cette enquête. Elle a mis en évidence que le taux de naissance prématurée donc est 2 fois plus élevé à Genève qu'en Suède. Pour le médecin, cette différence ne peut s'expliquer que par le niveau de protection supérieur, notamment avant l'accouchement, dont bénéficient les femmes enceintes en Suède. En France, la comparaison France-Genève est la même. car en fait, la France a institué un congé prénatal obligatoire dans les années 40. En Suisse, ajoute le médecin cantonal, l'assistante du médecin cantonal Laetitia Toscani, il n'est pas possible de prendre des jours de repos que pour des raisons médicales. Mais en période de crise, comme actuellement, de nombreuses femmes hésitent à s'absenter de leur travail, même si un médecin l'a prescrit. Il faut savoir que l'accouchement prématuré a des conséquences graves puisque 70% des décès de nouveau-nés lors de l'accouchement sont imputables à des naissances prématurées. D'un point de vue humain et social, il y a donc un intérêt évident à lutter contre les causes qui peuvent conduire aux accouchements avant terme, mais il y a aussi un intérêt économique. La prématurité coûte très cher au système de santé en général. Les propositions des chercheuses, c'est bien sûr un suivi médical durant toute la grossesse, mais une proposition qui l'a fait bondir les associations patronales puisqu'on demande des congés prénataux. En effet, je cite, « Des études françaises ont permis de mettre en évidence l'influence bénéfique de jours de repos échelonnés régulièrement en cours de grossesse et de mettre donc sur la table un projet qui a été également présenté par un groupe d'experts désigné par l'Union syndicale suisse, le droit et même l'obligation pour la travailleuse de prendre 15 jours de repos entre le 4e et le 9e mois à raison de 3 jours à la fois au maximum et sans possibilité de les thésauriser pour la fin de la grossesse. Toujours en Suisse, une étude vient de mettre en évidence que les femmes gagnent un quart de moins que les hommes. Elles occupent souvent des professions moins bien rémunérées. Cette situation explique l'écart des salaires avec les hommes. C'est donc l'Office fédéral de la statistique qui vient de sortir ces chiffres. Les femmes ont gagné 24% de moins que les hommes, soit une moyenne de 3 983 francs bruts contre 5 221 francs pour les hommes. Le salaire moyen donc pour tous les Suisses est de 4 841 francs en moyenne pour une semaine de 40 heures. C'est donc l'enquête sur la structure des salaires qui a été publiée par l'Office fédéral de la statistique qui met en évidence ces différences. En gros, les femmes touchent 1 230 francs de moins que les hommes et une formation plus poussée ne réduit que faiblement cette différence. Entre les sexes, la répartition des salaires est donc très différente. 23% des femmes ont un salaire mensuel net inférieur à 2000 francs contre seulement 3% des hommes. 3/4 des femmes gagnent jusqu'à 4000 francs alors que 3/4 des hommes ont un salaire net allant jusqu'à 6000 francs. La prison de femmes suisse de Hindelbank fête ses 100 ans avec des finances chancelantes. Le seul pénitencier pour femmes de Suisse modernise les activités offertes aux détenus. La prison pour femmes donc de Hindelbank, dans le canton de Berne, a marqué ses 100 ans d'existence par une cérémonie à laquelle ont assisté une centaine d'invités, dont le conseiller fédéral Arnold Koller. Les quelques 100 détenus du seul pénitencier de Suisse n'accueillant que des femmes ont dû, elles, se contenter de suivre la cérémonie derrière les barreaux de leurs fenêtres. Lors de cette cérémonie, on a mis en évidence que l'inégalité persiste également dans les prisons. Les possibilités de travail sont très limitées pour les femmes et la plupart du temps, ce sont des tâches ménagères ingrates comme des travaux de lessive ou de couture qui leur sont laissés. Raison donc de mettre en avant un programme de formation et offrir aux détenus plus de possibilités pour se former et progresser dans une future carrière. À Genève, c'était jour de grève. Lundi, plus de 10 000 personnes de la fonction publique ont manifesté. Environ 50% dans certains secteurs ont fait grève. Et ce qui est nouveau, ce sont certains secteurs qui, pour la première fois, se sont mis en grève et ont commencé une lutte. Ce sont le cas, par exemple, des aides à domicile qui ont répondu présents pour la grève. Elles ont commencé d'ailleurs immédiatement par une manifestation. 200 personnes sont partis vers le bourg de Fours. Il y avait le personnel de l'hospice général et les aides à domicile qui avaient décidé, avant de se rendre à la Treille pour l'Assemblée générale de la fonction publique avant la manifestation, elles ont donc décidé de se mettre en appétit avec une petite manifestation coup d'éclat devant le siège du département de l'action sociale et de la santé. Pour les aides à domicile, ce débrayage est quand même une première puisque c'est donc la première fois qu'elles osent faire grève. À l'hospice général aussi, on a parlé de formes de lutte plus différenciées que la grève. C'est ainsi que les employés de l'hospice, les assistantes sociales, ont voté à l'unanimité de ne plus fournir des statistiques à leur direction. Et puis à Genève, jeudi 7 novembre, se tiendra une manifestation très spéciale, une fête des bénéfices. Nous avons rencontré un de ses organisateurs. Le jeudi 7 novembre, à Genève, se tiendra une fête très spéciale. Des affiches et des tracts appellent en effet à une fête des bénéfices. On pourrait croire que c'est les grandes banques de la place qui veulent ainsi fêter leur hyper bénéfice. Non, c'est un groupe Néolibération qui, justement, par cette action, veut mettre en évidence la société de vitesse qui se met en place et protester, justement, contre cette redistribution inégalitaire.
Oui, dans le cadre de la campagne contre la nouvelle loi sur le travail, nous avons pensé que c'était intéressant, important d'élargir un peu le propos et montrer que justement ces super bénéfices vont servir à encore rationaliser le travail, encore supprimer les emplois au moment où on veut justement faire travailler les gens plus, les faire travailler de nuit, le dimanche, etc. Alors que, de toute évidence, il faut aller vers une réduction massive du temps de travail dans la situation actuelle.
Mais dans votre tract, vous appelez de façon un peu provocante en disant « nous sommes riches ».
Oui, la société est effectivement de plus en plus riche. La productivité augmente de façon extraordinaire. On est en train de dépasser, de fait, la société du travail nécessaire. Et les pouvoirs ne veulent absolument pas voir ça. Ils accumulent au contraire toujours plus une plus grande part de la richesse sociale pour justement pour pratiquer cette fuite en avant, rationaliser toujours plus ce travail et le réserver à quelques-uns, utilisant le chômage comme aiguillon pour faire travailler toujours plus et pour moins. Alors nous avons voulu dénoncer cette situation. Nous avons voulu faire ça de façon un peu différente, puisqu'on monte non pas une manifestation habituelle, mais une espèce d'énorme théâtre de rue, spectacle avec musique, costumes, etc., devant les grandes banques pour attirer l'attention de façon un peu différente sur cette situation et ce véritable choix de société qu'il faudra bien faire un jour.
Alors, concrètement, vous appelez à cette manifestation le jeudi 7 novembre, à quelle heure?
À 18h, donc à la Fontaine de la Cité, en bas de la rue de la Cité, à l'arrêt du tram 12, juste derrière la place Bel Air, à 18h.
Et si possible, venir déguisé ou en tout cas avec des instruments de musique ou d'autres types d'instruments bruyants.
Tout à fait, il y a toutes sortes de participations qui sont invitées et la fête se terminera avec une petite assemblée en plein air de la société du travail et des exclus.
Et puis un autre rendez-vous, cette fois-ci c'est le 15 novembre, où vous appelez plus directement à manifester contre la loi sur le travail et plus particulièrement contre le travail de nuit.
Oui, il s'agit de faire un chahut de nuit contre le travail de nuit, une manifestation un peu tard, vers 21h30, au rond-point de Plainpalais. Il s'agit d'un peu un pied de nez musical pour dire que la nuit est faite pour fêter, pour se retrouver ses amis, pour éventuellement dormir, mais en tout cas pas pour travailler.
Voilà, donc je vous rappelle les heures et les dates de ces manifestations. Le jeudi 7 novembre à 18h à la place de la Cité et le jeudi 15 novembre, c'est à Plainpalais. contre la loi sur le travail. Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre d'un réseau international contre le néolibéralisme, réseau qui a commencé à se constituer après la rencontre qui a eu lieu au Mexique dans le Chiapas en juillet, fin juillet, la rencontre intergalactique contre le néolibéralisme et pour l'humanité. Et d'autres suites ont été données. Entre autres, il y a un réseau féministe international contre le patriarcat dans sa phase néolibérale qui s'est constitué. Ses objectifs sont de maintenir des liens avec les femmes du mouvement zapatiste et d'organiser dans un an ou deux une rencontre européenne des féministes autonomes. Une première rencontre réunissant environ 35 femmes de 5 pays d'Europe a eu lieu à Paris le week-end passé. La prochaine rencontre aura lieu à Vienne, à Pâques 1997. Pour plus de renseignements, il faut s'adresser à l'espace Femmes International. Je vous donne le numéro de téléphone, le 3000 26 27 à Genève. Excusez-moi, le 326 27 à Genève, je répète, le 326 27 à Genève. Excusez-moi, c'était donc les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz. J'aimerais terminer par une lettre qui a été écrite par l'écrivaine Amélia Ploum. Elle l'a adressée au courrier du lecteur du Nouveau Quotidien et à une critique de cinéma, Marie-Claude Martin, qui s'est exprimée sur le film Breaking the Waves, film de Lars von Trier, film qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Alors, Amélie Ploum a été voir ce film et elle ne l'a pas du tout aimé. Alors, j'aimerais bien vous lire cette lettre. L'éloge dithyrambique de Marie-Claude Martin du film Breaking the Waves de Lars von Trier me laisse totalement perplexe. En particulier, l'allusion au cantique des cantiques. J'ai couru voir le film et je dois avouer qu'il m'a donné la nausée. Et depuis lors, le mot perversité ne parvient pas à sortir de mon esprit. Pour moi, ce film ne relève pas d'un hymne à l'amour, mais d'un hymne sadique à la haine de l'amour, du corps amoureux et surtout de la femme. Et si le réalisateur commence effectivement à nous montrer un couple amoureux à l'image, modernisé de celui du Cantique des Cantiques, ce n'est pas pour nous faire goûter à son plaisir sublime, mais pour nous préparer à assister à sa destruction, qui est le plat de résistance du film. C'est tout d'abord le corps de l'amant qui va être anéanti par une machine infernale, et le pauvre spectateur devra subir tout au long du film, un balai acharné de bistouri, seringues et électrochocs qui n'en finiront pas de charcuter cette pauvre chair devenue inerte. Ensuite, ce sera au tour de l'amante, ardente jeune fille innocente. Mais pour elle, comme par hasard, l'accident héroïque sur le lieu de travail ne suffit pas au plaisir du réalisateur. Il lui faudra la salir, l'avilir, jusqu'à dans sa sexualité bien entendu. Et à la faveur d'une relation sadomasochiste sacralisée, on va assister à la déchéance de l'amoureuse qui va devenir, en vomissant et en sanglotant, une prostituée bénévole de bas étage, finalement lacérée à mort à coups de poignard par deux pervers sexuels. Ô cantique des cantiques, ne tombes-tu pas dans la plus morbide des sectes ? Le sadomasochisme et l'avolissement de soi ne relèvent pas de l'amour sublime et ne fait pas marcher les paraplégiques ni pousser des cloches aux églises, à mon humble avis. Et si l'homme renaît de l'anéantissement de la femme, on n'atteint pas le nirvana, mais une misogynie toute terrestre, masquée sous des oripeaux mystico-religieux qui ont déjà bien fait leur preuve dans la haine de l'amour, du sexe et des femmes. Avec mes très cordiales salutations, Amélie Ploum. Voilà, c'était les nouvelles sur la pleine lune. Marjolaine piave d'impatience et prépare son cœur. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.
Restez à l'écoute, dans deux minutes, c'est le Memento de Marjolaine, un memento plein de découvertes. Nous aurons aussi une rencontre au sujet des ponts Saint-Gervais, un long entretien. Tout ceci est fascinant, alors nous restons ensemble encore pour quelques minutes et ce sera le Memento de Marjolaine. Donc, je rappelle une première heure avec le memento habituel, présentation du spectacle. L'entretien, c'est avec Ursula Buller, sera en deuxième partie, donc l'heure suivante.